Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, lu par Dominique Collignon-Morin. Un livre audio qui vous est présenté par Pottermore from J.K. Rowling.
Harry Potter et les reliques de la mort. Chapitre 1. L'ascension du Seigneur des Ténèbres. Les deux hommes surgirent de nulle part, à quelques mètres l'un de l'autre, sur le chemin étroit, éclairé par la lune. Pendant un instant, ils restèrent parfaitement immobiles, chacun pointant sa baguette magique sur la poitrine de l'autre. Puis, lorsqu'ils se furent reconnus, ils rangèrent leurs baguettes sous leur cape et se mirent à marcher d'un pas vif dans la même direction.
« Des nouvelles ?»
demanda le plus grand des deux.
« Excellente !» répondit Severus Rogue.
Le chemin était bordé à gauche par des mûriers sauvages aux tiges basses et, à droite, par une haute haie soigneusement taillée. Les longues capes des deux hommes ondulaient autour de leurs chevilles au rythme de leurs pas.
« J'ai cru que j'allais arriver en retard, »
dit Yaxley, dont le visage taillé à coups de serpe apparaissait et disparaissait sous les branches des arbres qui masquaient par endroits la lueur de la lune.
« C'était un peu plus difficile que je ne l'avais pensé, mais j'espère qu'il sera satisfait. Tu as l'air sûr de toi? Tu penses que tu seras bien reçu ?»
Rogue acquiesça d'un signe de tête, mais ne donna pas de détails. Ils tournèrent à droite, dans une large allée qui s'éloignait du chemin. La haute haie suivit la même courbe, s'étendant au loin par-delà l'impressionnant portail de fer forgé qui barrait la route des deux hommes. Ni l'un ni l'autre ne ralentit l'allure. Sans un mot, ils levèrent le bras gauche dans une sorte de salut et traversèrent la grille comme si le métal sombre n'était qu'un rideau de fumée. Les rangées d'ifs étouffaient le son de leurs pas. Il y eut un bruissement quelque part sur leur droite. Yaxley tira de nouveau sa baguette, qu'il pointa par-dessus la tête de son compagnon, mais le bruit était dû à un paon, au plumage d'un blanc immaculé qui s'avançait d'un air majestueux au sommet de la haie.
« Il ne se refuse jamais rien, Lucius. Des paons. » Avec un petit ricanement, Yaxley remit la baguette sous sa cape.
Tout au bout de l'allée, un élégant manoir se dessina dans l'obscurité, des éclats de lumière se reflétant au rez-de-chaussée dans les carreaux des fenêtres à croisillons. Quelque part dans le parc obscur, au-delà de la haie, on entendait le chant d'une fontaine. Des graviers glissèrent sous leurs semelles lorsque Rogue et Yaxley se hâtèrent en direction de la porte qui pivota vers l'intérieur à leur approche, bien qu'apparemment personne ne l'eût ouverte. Le hall d'entrée, faiblement éclairé, était vaste et sa décoration somptueuse, avec un magnifique tapis qui recouvrait en grande partie le sol de pierre. Les portraits, au teint pâle accrochés au mur, suivirent des yeux les deux hommes qui marchaient à grands pas. Rogue et Yaxley s'arrêtèrent devant une lourde porte de bois qui menait dans la pièce voisine. Ils hésitèrent un bref instant, puis Rogue tourna la poignée de bronze. Le salon était rempli de visiteurs silencieux, assis autour d'une longue table ouvragée. Les meubles qui décoraient habituellement les lieux avaient été repoussés en désordre contre les murs. La pièce était éclairée par un feu qui ronflait dans la cheminée sous un splendide manteau de marbre surmonté d'un miroir au cadre doré. Rogue et Yaxley s'attardèrent un moment sur le seuil de la porte. Tandis qu'ils s'habituaient à la faible lumière, un très étrange spectacle attira leur regard. Une silhouette humaine, apparemment inconsciente, était suspendue au-dessus de la table, la tête en bas, et tournait, lentement, sur elle-même, comme si elle avait été accrochée par les pieds à une corde invisible, son image se reflétant dans le miroir à la surface nue de la table vernie. Aucune des personnes assises autour de cette vision singulière n'y prêtait attention, à part un jeune homme pâle, qui se trouvait placé presque au-dessous et ne pouvait s'empêcher de lever régulièrement les yeux.
« Ah,
Yaxley et Rogue,
dit une voix claire au timbre aigu qui provenait de l'extrémité de la table.
« Vous avez failli être très en retard. »
L'homme qui avait parlé était assis juste devant la cheminée, et il fut tout d'abord difficile pour les deux nouveaux venus de distinguer autre chose que les contours de sa silhouette. Mais à mesure qu'ils approchèrent, ils virent briller dans la pénombre un visage au crâne chauve semblable à une tête de serpent, avec ses deux fentes en guise de narines et ses yeux rouges luisant aux pupilles verticales. Son teint était si pâle qu'il semblait scintiller d'une lueur nacrée.
« Severus, ici !»
dit Voldemort en indiquant un siège juste à sa droite.
« Yaxley, à côté de Dolove !»
Les deux hommes s'installèrent aux places qui leur étaient désignées. La plupart des regards suivirent Rogue, et ce fut à lui que Voldemort s'adressa le premier.
« Alors ?»«
Maître, l'ordre du Phénix a l'intention d'emmener Harry Potter hors de la cachette où il est actuellement en sûreté samedi prochain, à la tombée du jour. »
Cette déclaration suscita un intérêt manifeste autour de la table. Certains se raidirent, d'autres s'agitèrent, tous observant Rogue et Voldemort.
« Samedi, à la tombée du jour !» répéta Voldemort.
Ses iris d'un rouge flamboyant fixèrent les yeux noirs de Rogue avec une telle intensité que plusieurs personnes détournèrent la tête, craignant apparemment la brûlure de ce regard féroce. Rogue, en revanche, dévisagea Voldemort avec le plus grand calme. Au bout d'un certain temps, la bouche sans lèvres du Seigneur des Ténèbres s'étira en une sorte de sourire.
« Bien, très bien. Et cette information vient ?»«
De la source dont nous avons parlé, » dit Rogue. « Maître ?»
Yaxley s'était penché en avant pour mieux voir Voldemort et Rogue à l'autre bout de la table. Toutes les têtes se tournèrent vers lui.
« Maître, j'ai eu des informations différentes. »
Yaxley attendit, mais comme Voldemort restait silencieux, il poursuivit.
« Dawlish, l'Aurore, a laissé entendre que Potter ne serait pas transféré avant le 30, la veille de son 17e anniversaire. »
Rogue souriait. « Selon ma source, il était question de nous lancer sur une fausse piste. Ça doit être celle-ci. Dawlish a dû subir, sans aucun doute, un sortilège de confusion. Ça ne serait pas la première fois, il est connu pour être influençable. »«
Je vous assure, maître, que Dawlish était certain de ce qu'il avançait, » répondit Yoxley.
« Bien sûr qu'il en était certain, s'il a été ensorcelé, » dit Rogue. « Je puis t'assurer à toi, Yaxley, que le Bureau des Horreurs ne jouera plus aucun rôle dans la protection de Harry Potter. L'Ordre pense que nous avons infiltré le ministère. »«
Pour une fois, l'Ordre a raison, pas vrai ?»
dit un petit homme replet assis non loin de Yaxley. Il eut un petit rire essoufflé qui suscita quelque écho le long de la table. Voldemort, pour sa part, ne riait pas. Son regard s'était levé vers le corps qui tournait lentement au-dessus d'eux, et il semblait perdu dans ses pensées.
« Maître, » continua Yaxley, « Dawlish pense que tout un détachement d'Aurore sera envoyé pour escorter ce garçon. »
Voldemort leva une grande main blanchâtre et Yaxley s'interrompit aussitôt, une lueur d'amertume dans le regard lorsque Voldemort se tourna à nouveau vers Rogue.
« Oh, vont-ils le cacher ?»
« Chez l'un des membres de l'Ordre, » répondit Rogue. « D'après ma source, l'endroit bénéficie de toutes les protections que peuvent fournir ensemble l'Ordre et le ministère. Je pense, maître, que nous n'aurons guère de chance de nous emparer de lui une fois qu'il sera là-bas. À moins, bien sûr, que le ministère ne soit tombé avant samedi, ce qui nous permettrait de découvrir et d'annuler suffisamment d'enchantements pour qu'il nous soit facile de détruire ceux qui restent.
« Eh bien, Yaxley !»
lança Voldemort au bout de la table. le feu de la cheminée scintillant étrangement dans ses yeux rouges.
« Le ministère sera-t-il tombé samedi prochain ?»
À nouveau, toutes les têtes se tournèrent. Yaxley redressa les épaules.
« Maître, j'ai de bonnes nouvelles à ce sujet. J'ai réussi, avec bien des difficultés et après de grands efforts, à soumettre Pius Thickness au sortilège de l'Impérium. »
L'annonce fit grande impression parmi ceux qui étaient assis autour de lui. Dolov, son voisin, un homme au long visage tordu, lui donna une tape dans le dos.
« C'est un début !»
dit Voldemort.
« Mais Thickness n'est qu'un individu isolé. Pour que je puisse agir, il faut que Scrimgeour soit entouré de gens qui nous sont acquis. Si nous échouons dans notre tentative d'éliminer le ministère, je serai ramené loin, en arrière. »
« Oui, maître, c'est vrai, mais comme vous le savez, en tant que directeur du département de la justice magique, Thickness a de fréquents contacts non seulement avec le ministre lui-même, mais aussi avec les directeurs de tous les autres départements du ministre. Maintenant que nous exerçons notre contrôle sur un officiel de haut rang, je pense qu'il nous sera facile de soumettre les autres. Ils pourront ainsi travailler ensemble à précipiter la chute de Scrimgeour. »
« Condition que notre ami Thickness ne soit pas démasqué avant que nous ayons converti les autres !»
dit Voldemort.
« En tout cas, il me semble peu probable que le ministère tombe en mon pouvoir avant samedi prochain. Si le garçon reste intouchable lorsqu'il sera parvenu à destination, nous devrons nous occuper de lui pendant son voyage. »
« Nous disposons d'un avantage, maître, »
déclara Yaxley, qui semblait décidé à recevoir sa part d'approbation.
« Nous avons à présent plusieurs personnes implantées au département des transports magiques. Si Potter transplane ou utilise le réseau des cheminées, nous en serons immédiatement avertis. »«
Il ne fera ni l'un ni l'autre, » répliqua Rogue. « L'ordre évite tout moyen de transport contrôlé ou organisé par le ministère. » Il se méfie de tout ce qui est lié à cet endroit.
« Tant mieux !»
reprit Voldemort.
« Il sera donc obligé de se déplacer à l'air libre, beaucoup plus facile pour nous de très loin. »
Voldemort regarda une nouvelle fois le corps qui tournait lentement sur lui-même tout en poursuivant.
« Je m'occuperai du garçon moi-même. Trop d'erreurs ont été commises au sujet de Harry Potter. Je suis responsable de certaines d'entre elles. Le fait que Potter soit toujours en vie est dû beaucoup plus à mes erreurs qu'à ses triomphes. »
Autour de la table, tout le monde observait Voldemort avec appréhension. L'expression de chacun et de chacune trahissant la crainte de se voir reprocher l'existence trop longue de Harry Potter. Voldemort, cependant, semblait parler plus à lui-même qu'à aucun d'entre eux, le visage toujours levé vers le corps inconscient qui tournait au-dessus de lui.
« J'ai fait preuve de négligence, et c'est pourquoi le hasard et la mauvaise fortune qui s'acharne à détruire tout projet insuffisamment préparé ont fini par me mettre en échec. Mais j'ai beaucoup appris. À présent, je comprends aujourd'hui les choses qui m'échappaient auparavant. Je dois être celui qui tuera Harry Potter. « Et je le serai !»
Comme pour répondre aux paroles qu'il venait de prononcer, une plainte soudaine retentit, un cri terrible prolongé de douleur et de désespoir. Nombre de ceux qui étaient assis autour de la table baissèrent les yeux, surpris, car le son semblait provenir de sous leurs pieds.
« Que de verre !»
dit Voldemort de la même voix calme et pensive, sans détacher les yeux du corps suspendu.
« Ne t'ai-je pas recommandé de faire taire notre prisonnier ?» Si, si, maître !»
balbutia vers le milieu de la table un petit homme assis tellement bas que sa chaise, à première vue, paraissait vide. Il se leva précipitamment et fila hors de la pièce, ne laissant dans son sillage qu'un étrange éclat argenté.
« Comme je le disais !»
poursuivit Voldemort, qui posa à nouveau son regard sur ses fidèles visiblement crispés.
« Je comprends mieux les choses maintenant. Par exemple, il me faudra emprunter la baguette de l'un d'entre vous pour tuer Potter. »
Une expression d'effarement apparut sur les visages qui l'entouraient. Il aurait pu tout aussi bien leur annoncer qu'il voulait leur emprunter un bras.
« Pas de volontaire ?»
demanda Voldemort.
« Voyons, Lucius, je ne vois pas pourquoi tu aurais encore besoin d'une baguette magique. »
Lucius Malfoy leva les yeux. À la lueur des flammes, son teint semblait jaunâtre, cireux, ses yeux enfoncés dans leurs orbites plongées dans l'ombre. Lorsqu'il parla, sa voix était rauque.
« Maître... »«
Ta baguette, Lucius, j'exige que tu me donnes ta baguette. »
Malfoy jeta un regard de côté à sa femme. Les yeux fixés devant elle, elle était aussi pâle que lui. Ses longs cheveux blonds tombant le long de son dos, mais sous la table... Ses doigts minces se refermèrent brièvement sur le poignet de son mari. En sentant sa pression, Malfoy glissa la main dans sa robe de sorcier, en retira sa baguette et la fit passer à Voldemort, qui l'examina attentivement en la tenant devant ses yeux rouges.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
De l'or, mon maître, » murmura Malfoy.
« Et à l'intérieur ?»
Du dragon. Du ventricule de dragon.
Très bien,
dit Voldemort. Il sortit sa propre baguette et compara leurs tailles respectives. Lucius Malfoy fit un imperceptible mouvement. Pendant une fraction de seconde, il sembla s'attendre à recevoir la baguette magique de Voldemort en échange de la sienne. Le geste n'échappa pas à Voldemort, dont les yeux s'agrandirent avec une expression mauvaise.
« Te donner ma baguette, Lucius, ma baguette !»
Quelques ricanements s'élevèrent dans l'assemblée.
« Je t'ai accordé ta liberté, Lucius. N'est-ce pas suffisant ? Mais j'ai cru remarquer que toi et ta famille ne paraissaient pas très heureux ces temps-ci. » Y a-t-il quelque chose qui te déplaît dans ma présence chez toi ?
Non, rien. Rien du tout, maître.
Quel mensonge, Lucius !
On aurait dit que la voix douceâtre continuait de siffler après que la bouche cruelle eût cessé tout mouvement. Un ou deux sorciers eurent peine à réprimer un frisson lorsque le sifflement s'accentua. Quelque chose de lourd glissait par terre sous la table. L'énorme serpent apparut et se hissa lentement sur le fauteuil de Voldemort. Il s'éleva, apparemment interminable, et s'installa sur les épaules de son maître. Son cou avait l'épaisseur d'une cuisse humaine. Ses yeux, avec leur fente verticale en guise de pupille, ne sillaient pas. D'un air absent, Voldemort caressa la créature de ses longs doigts fins sans cesser de fixer Lucius Malfoy.
« Pourquoi les Malfoy paraissent-ils si malheureux de leur sort ? Mon retour, mon ascension au pouvoir ne sont-ils pas ce qu'ils prétendaient désirer depuis de si longues années ?»«
Bien sûr, maître, »
répondit Lucius Malfoy. D'une main tremblante, il essuya la sueur qui perlait au-dessus de sa lèvre.
« Nous le désirons, nous le désirons !»
À la gauche de Malfoy, sa femme hocha la tête avec une étrange raideur, sans regarder Voldemort et son serpent. À sa droite, son fils, Drago, qui observait le corps inerte suspendu au-dessus de lui, jeta un bref coup d'œil en direction de Voldemort, puis détourna à nouveau la tête, terrifiée, à l'idée que leurs regards se croisent.
« Maître !»
dit une femme brune, assise vers le milieu de la table, la voix serrée par l'émotion.
« C'est un honneur de vous avoir ici, dans notre maison de famille. Pour nous, il ne pourrait y avoir de plus grand plaisir !»
Elle avait pris place à côté de sa sœur, aussi différente qu'elle dans son apparence, avec ses cheveux bruns et ses paupières lourdes, que dans son maintien et son comportement. Alors que Narcissa restait rigide et impassible, Bellatrix se penchait vers Voldemort, car les mots seuls ne suffisaient pas à exprimer son désir de proximité.
« Pas de plus grand plaisir !»
répéta Voldemort, la tête légèrement inclinée de côté tandis qu'il la regardait.
« Venant de ta part, cela signifie beaucoup, Bellatrix !»
Le visage de cette dernière s'empourpra. Des larmes de ravissement lui montèrent aux yeux.
« Mon maître sait que je ne dis rien d'autre que la vérité.
« Pas de plus grand plaisir, même comparé à l'heureux événement qui, ai-je appris, s'est produit cette semaine dans la famille. »
Elle le fixa, les lèvres entrouvertes, visiblement déconcertées.
« J'ignore de quoi vous voulez parler, maître. »«
Je parle de ta nièce, Bellatrix, et de la vôtre aussi, Lucius et Narcissa. » Elle vient de se marier avec Rémus Lupin, le loup-garou. Vous devez être très fier.
Il y eut dans toute l'assemblée une explosion de rire sarcastique. Certains, les plus nombreux, se penchèrent en avant pour échanger des regards réjouis. D'autres martelèrent la table de leurs poings. L'énorme serpent, dérangé par le tumulte, ouvrit grand sa gueule et siffla avec colère, mais les mange-morts ne l'entendirent pas, tout à leur joie de voir humilier Bellatrix et les Malfoy. Le visage de Bellatrix, qui avait exprimé tant de bonheur quelques instants auparavant, s'était couvert de vilaines plaques rouges.
« Ce n'est pas notre nièce, maître !» s'écria-t-elle au milieu du déferlement d'hilarité. « Narcissa et moi n'avons plus jamais accordé un regard à notre sœur depuis qu'elle s'est mariée avec le sang de Bourbe. Cette sale gamine n'a rien à voir avec nous, pas plus que la bête qu'elle a épousée. »«
Qu'en dis-tu, Drago ?»
demanda Voldemort, dont les paroles, bien qu'il parlât à voix basse, résonnèrent clairement parmi les sifflets et les railleries.
« Accepterais-tu de garder leur louveteau ?»
Des éclats de rire redoublèrent. Drago Malfoy lança un coup d'œil terrifié à son père qui contemplait ses genoux, puis croisa le regard de sa mère. Elle eut un hochement de tête presque imperceptible avant de fixer à nouveau d'un air impassible le mur qui lui faisait face.
« Ça suffit !»
dit Voldemort en caressant le serpent furieux.
« Ça suffit !»
Et les rires s'évanouirent aussitôt.
De nombreux arbres généalogiques, parmi ceux de nos plus anciennes familles, sont atteints de maladies avec le temps,
dit-il, tandis que Bellatrix haletante posait sur lui un regard implorant.
Il faudrait élaguer le vôtre pour le maintenir en bonne forme, ne croyez-vous pas? Coupez les branches qui menacent la santé des autres.
Oui, maître.
Murmura Bellatrix, les yeux à nouveau baignés par des larmes de gratitude.
À la première occasion.
Cette occasion vous sera donnée,
assura Voldemort.
Dans votre famille comme partout dans le monde, nous arracherons le chancre qui nous infecte jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le sang authentique.
Voldemort leva la baguette magique de Lucius Malfoy, la pointa droit sur la silhouette suspendue qui tournait lentement au-dessus de la table, et lui imprima un minuscule mouvement. La silhouette s'anima en poussant un gémissement et commença à se débattre contre ses liens invisibles.
« Reconnais-tu notre invité, Severus ?»
demanda Voldemort.
Rogue leva les yeux vers le visage qui lui apparaissait en sens inverse. Tous les mange-morts regardaient à présent la prisonnière, comme si la permission leur avait été donnée de manifester leur curiosité. Tournant sur elle-même vers la lumière que projetait le feu de la cheminée, la femme dit une voix brisée, terrorisée.
« Severus, aide-moi !»«
Oui, je la reconnais, » répondit Rogue.
Et la prisonnière continua de pivoter lentement.
« Et toi, Draco ?»
interrogea Voldemort, qui caressait de sa main libre la tête du serpent. Drago fit « non » d'un hochement de tête saccadé. Maintenant que la femme avait repris conscience, il semblait incapable de la regarder à nouveau.
« Tu n'aurais pas choisi sa classe !»
dit Voldemort.
« Car, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, nous recevons ce soir Charity Burbage, qui, jusqu'à une date récente, était professeur à l'école de sorcellerie de Poudlard.
Des murmures d'assentiment s'élevèrent autour de la table. Une femme aux épaules larges, le dos voûté, les dents pointues, lança d'une petite voix caquetante.
« Ah oui, la professeure Burbage. Il enseignait aux enfants de sorciers et de sorcières tout ce qu'il faut savoir des moldus, en leur expliquant qu'ils ne sont pas très différents de nous. »
L'un des mange-morts cracha par terre. Charity Burbage pivota une nouvelle fois vers Rogue.
« Severus, s'il te plaît, s'il te plaît. »«
Silence !»
coupa Voldemort. Il remua à nouveau d'un petit coup sec la baguette de Malfoy et Charity se tut comme si on l'avait bâillonné.
« Non contente de polluer et de corrompre l'esprit des jeunes sorciers, le professeur Burbage a publié la semaine dernière dans la Gazette du Sorcier une défense passionnée des sangs de Bourbe. Les sorciers, affirment-elles, doivent accepter ces voleurs de leur savoir et de leur pouvoir magique. La diminution du nombre des sangs purs est une tendance qu'elle estime souhaitable. Elle voudrait nous marier tous à des moldus. Ou sans doute à des loups-garous. »
Cette fois, personne ne rit. Il n'y avait aucune équivoque dans la colère et le mépris qu'exprimait la voix de Voldemort. Pour la troisième fois, Charity Burbage pivota vers Rogue. Des larmes ruisselaient de ses yeux et coulaient dans ses cheveux. Rogue l'observa imperturbable, tandis qu'elle continuait de tourner sur elle-même.
Avada Kedavra !
L'éclair de lumière verte illumina les moindres recoins de la pièce. Dans un fracas retentissant, Charity s'effondra sur la table qui trembla et craqua sous le choc. Assis sur leur chaise, plusieurs mange-morts eurent un mouvement de recul. Drago glissa de la sienne et tomba par terre.
Le dîner est servi, Nagini,
dit Voldemort d'une voix douce. Le grand serpent se dressa alors en oscillant, puis glissa des épaules de son maître vers la table de bois verni.